Alors, selon Alain Rey, un linguiste français, le mot travail viendrait du latin tripalium, un instrument de torture formé de trois pieux, utilisé pour maintenir les animaux domestiques afin de les soigner ou pour punir les esclaves. Certes, le contenu a changé et travailler est devenu aujourd'hui le lot commun de l'humanité. Mais le fait est que depuis des temps immémoriaux, le travail est associé à l'idée de souffrance, voire d'esclavage. Ce n'est pas le propre du travail, mais de la société, et en particulier de la société d'exploitation. Avec l'émergence de la société d'exploitation, le travail est devenu, pour la majorité des hommes, une contrainte, les richesses produites étant accaparées par une minorité. Dans la société capitaliste, il est même devenu une marchandise comme une autre, vendue contre un salaire par ceux qui possèdent pour seul bien leurs bras et leurs têtes. Depuis 2 siècles, le salariat, comme forme particulière d'exploitation du travail humain, s'est généralisé à toute la société. Mais dès le début du développement du prolétariat industriel, les premiers combats contre cette nouvelle forme d'asservissement ont commencé. Le mouvement ouvrier est né de ces luttes multiples, mais aussi de la rencontre avec les premiers socialistes et communistes qui leur ont donné un sens, celui de changer la société. C'est au travers de la lutte des classes que la classe ouvrière a éveillé et développé sa conscience. Elle a dû combattre pour de nombreuses revendications, mais deux en particulier qui s'attaquent au fondement même de l'exploitation capitaliste, la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires. Ne plus faire de journées interminables de 16 heures par jour, obtenir de meilleurs salaires pour subvenir à ses besoins, c'était une nécessité vitale. Mais pour les éléments les plus radicaux, les plus conscients, c'était aussi le seul moyen de préparer l'émancipation sociale. Elle s'y se battait pour les 8 heures ou de meilleurs salaires, c'était sans perdre de vue le but final, l'abolition du salariat. Avec l'extension du capitalisme à la surface de la planète, ces revendications se retrouvent aujourd'hui sur tous les continents, du Bangladesh à l'Afrique du Sud. Et dans les pays anciennement industrialisés, la crise les a brutalement réactualisés. Cela prouve, s'il en était besoin, que ces revendications expriment avant tout le rapport de force entre la classe ouvrière et celle des capitalistes et qu'elles ne disparaîtront qu'avec lui. Alors ce soir, nous ne parlerons pas du coût du travail, convaincus que nous sommes que c'est l'exploitation du travail humain qui crée les richesses fabuleuses de ce monde. Nous ne dirons pas non plus qu'il faut libérer le travail, slogan dans l'air du temps, mais qui cache surtout la volonté patronale de déréglementer le travail et aussi le fait que c'est le parasitisme de la bourgeoisie qui l'entrave. Mais nous déroulerons une page de la lutte des classes, celle que la classe ouvrière a menée et qu'elle mène encore aujourd'hui pour conquérir son droit à l'existence. C'est une page que tous les tenants du capitalisme voudraient tourner en prétendant que c'est la fin de la lutte des classes. C'est pourtant une page qui a profondément modelé la société dans laquelle nous vivons sans qu'on en connaisse toujours l'histoire. Alors, pour développer ce sujet, je passe la parole à Isabelle Bonnet.
La préhistoire de l'humanité n'a pas connu l'exploitation de l'homme par l'homme. Les premiers êtres humains se distinguèrent des autres animaux par leur capacité à créer des outils pour tirer le meilleur parti des ressources de la nature. Pour se nourrir, ils pratiquaient la cueillette et la chasse, chasse qui fut grandement facilitée dès qu'ils surent façonner des silex tranchants. Fabriquer, développer des outils fut en quelque sorte la première forme de travail, une activité propre à l'espèce humaine. Si certains singes sont capables de sélectionner et d'utiliser une pierre pour casser une noix, s'ils peuvent enlever les feuilles d'une fine branche, s'en servir pour récupérer des fourmis dans une fourmilière et s'en délecter, aucun animal n'a pu fabriquer d'outils aussi complexes qu'un simple biface, résultat de nombreuses entailles successives et surtout d'un projet élaboré et reproductible. Engels, le compagnon d'idées et de combat de Marx, avait eu l'intuition de l'importance de l'outil dans l'évolution de l'homme lorsqu'il écrivit en 1876 un court texte intitulé « Le rôle du travail dans la transformation du singe en homme ». Alors je le cite. « C'est le jour où, après des millénaires de lutte, la main fut définitivement différenciée du pied et l'attitude verticale enfin assurée, que l'homme se sépara du singe et que furent établies les bases de développement du langage articulé et du prodigieux développement du cerveau qui a depuis rendu l'écart entre l'homme et le singe infranchissable. La spécialisation de la main, voilà qui signifie l'outil, et l'outil signifie l'activité spécifiquement humaine, la réaction modificatrice de l'homme sur la nature, sur la production. Autrement dit, le travail. Alors aujourd'hui, on sait que cette évolution a duré des millénaires, des millions d'années, pardon, et non des millénaires, mais Engels ne pouvait s'appuyer que sur les connaissances de son temps. Pour autant, les grandes étapes de l'hominisation qu'il indiquait sont celles que les préhistoriens actuels décrivent en détail. Sous l'influence du mode de vie, l'ancêtre de l'homme a commencé à marcher sur ses deux pieds, la station debout a libéré ses mains qui ont pu acquérir l'habileté nécessaire pour fabriquer des outils. En même temps, son cerveau se développait et l'apparition du langage a permis la transmission des connaissances accumulées. Après le travail de l'outil, un autre pas fut franchi avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage. L'homme cessait d'être un prédateur obligé de chasser et de cueillir des plantes pour se nourrir, il devint véritablement producteur de sa propre nourriture, ce qui lui permit d'assurer la survie de groupes humains plus importants. Les hommes produisant davantage d'aliments qu'ils n'en consommaient, un autre changement apparut. La division du travail et avec elle la division de la société en classes. L'appropriation du surplus par une fraction d'entre eux fut l'origine de la propriété privée et cela transforma les relations entre les hommes. Face à une minorité de privilégiés qui étaient débarrassés du souci de pourvoir à leurs besoins, la grande majorité des producteurs étaient contraints de se consacrer au travail productif pour vivre et faire vivre les autres. On était passé du travail des hommes sur la nature à l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans l'Antiquité esclavagiste, le travail était considéré comme une tâche pénible, réservée aux esclaves, tandis que les citoyens libres s'adonnaient aux activités nobles, telles que les arts, la science, la philosophie, ou encore la participation à la vie politique. Les philosophes grecs théorisèrent cela dans leurs idées. Le travail est indigne de l'homme, car il n'est homme que dans la vie de l'esprit, dans les activités intellectuelles. Chez les Romains, il suffit de dire que le mot « négos » vient de « neg osium », c'est-à-dire « négation du loisir » pour avoir une idée de la considération dans laquelle on tenait le commerce et le travail en général. Libéré du travail productif proprement dit, une partie des bénéficiaires de la société esclavagiste n'en jouèrent pas moins un rôle déterminant. Ils ne vivaient pas qu'en parasites du travail humain. Certains créaient dans le domaine des idées, de quoi faire avancer la société. Les mathématiques, la géométrie permirent aux ingénieurs et aux architectes de concevoir des villes, des monuments comme le Parthénon. Elles servirent aussi à l'arpentage des terrains, au développement de l'astronomie. Dans ces sociétés, le travail n'était donc pas insupportable pour tout le monde. Certains s'y épanouissaient même certainement, tandis qu'il était dur et pénible pour les esclaves bâtisseurs ou pour ceux qui cultivaient les champs. Les civilisations se développèrent sur la base de l'esclavage. La généralisation de la production marchande et la multiplication des échanges permirent l'enrichissement général de la société et le développement des techniques qui, plus tard, ouvrirent la voie au capitalisme. Après les philosophes de l'Antiquité, qui voyaient le travail comme une dégradation de la condition humaine, vinrent les religieux du Moyen Âge, qui considéraient le travail comme une malédiction. Il aurait été imposé à l'homme, chassé du paradis pour avoir péché. Il devait donc l'accepter dans la souffrance. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle, avec les intellectuels des Lumières, qu'on commença à considérer le travail comme une activité humaine noble, productrice de richesses. En 1776, dans son traité d'économie, intitulé « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », Adam Smith expliquait que le travail est à la base de la richesse générale de la société et que cette richesse augmente avec la division croissante du travail. Avec la révolution industrielle qui débuta en Grande-Bretagne pour s'étendre rapidement à d'autres pays, le développement du machinisme allait profondément transformer le travail, mais aussi la condition du travailleur. À côté du paysan libre ou de l'artisan, maître de leur travail et de leur production, surgissait le prolétaire, dépourvu de tout moyen de gagner sa vie autrement qu'en s'embauchant dans une manufacture. Brutalement, l'ouvrier était ramené au rang de bête de somme, subissant des horaires démentiels, des conditions de travail épouvantables. C'est pour échapper à ce sort que les petits artisans du textile, les tricoteurs et les tondeurs de draps se révoltèrent en 1811-1812, brisant les premières machines qui dégradaient leurs conditions de vie et leurs salaires. Ce mouvement, le ludisme, s'étendit rapidement à tout le nord de l'Angleterre et fut sévèrement réprimé. Des milliers d'hommes de troupes furent acheminés pour quadriller la région. Et finalement, 13 ouvriers furent pendus, des dizaines d'autres condamnés à la déportation. Cette opposition à l'introduction des machines se manifesta dans d'autres régions, d'autres pays. Elle fut la première expression de la colère d'ouvriers artisans encore plus ou moins indépendants devant la mécanisation croissante des ateliers et la menace qu'elle représentait pour leur existence même. D'autres types de luttes lui succéderaient pour résister à l'exploitation des capitalistes, dont les machines ne sont que l'instrument. Alors, quelle est l'origine de cette nouvelle condition du travailleur sous le régime capitaliste ? Comment le travail devient-il aliéné, selon le mot de Marx ? Tout d'abord, le travail de l'ouvrier n'est plus l'activité physique et intellectuelle libre de l'artisan. Dans la fabrique, le morcellement des tâches réduit l'homme à n'être qu'un simple appendice de la machine, d'où ce sentiment à la fois de souffrance physique et d'abrutissement de l'esprit. Avec le machinisme, le travail manuel se sépare du travail intellectuel et cela empêche l'épanouissement de l'être humain. D'un autre côté, le travail lui-même n'est plus la satisfaction d'un besoin en soi, comme la satisfaction de fabriquer un objet de qualité pour son usage personnel ou pour le vendre. Au contraire, le travail est devenu le seul moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail, parce qu'il procure le salaire indispensable pour vivre. C'est donc un travail contraint que l'on exerce, celui-là comme un autre, à la seule fin d'en tirer un salaire pour subsister, alors qu'on ne vit vraiment qu'avant ou après le travail. Enfin, dans le mode de production capitaliste, les moyens de production, les usines, les capitaux, sont la propriété privée de quelques-uns. Et la majorité, tous ceux qui doivent travailler pour vivre, sont dépossédés au sens de dépouillés du produit de leur travail, des richesses qu'ils ont produites et qui appartiennent maintenant aux capitalistes. C'est pour toutes ces raisons que Marx parlait de l'aliénation du travail, c'est-à-dire du fait qu'il devenait étranger à la condition humaine elle-même. Il précisait, je le cite, « Dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas mais se nie, ne se sent pas à l'aise mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle mais mortifie son corps et ruine son esprit. » Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Toujours Marx. Mais pour Marx, il ne s'agissait pas seulement de constater cette dégradation du travail. Il fallait la contester et rechercher le moyen de libérer l'homme de cette aliénation, de cette nouvelle servitude que le salariat incarnait. D'emblée, la solution semblait être dans l'abolition de la propriété privée. Là se trouvait la clé de la dépossession, de l'aliénation, car la propriété privée de quelques-uns, c'est aussi la privation de propriété pour le plus grand nombre. Et Marx se réclamait de cette abolition comme communiste. Pour envisager concrètement les moyens de cette suppression, il lui fallait comprendre le fonctionnement même de la société capitaliste. Il lui fallait rechercher dans les rapports de production les plus enracinés dans la société, donc les plus cachés à l'analyse, le moyen de bouleverser l'ordre social basé sur la propriété privée. Ces recherches commencèrent là où s'était arrêtée l'économie politique de son temps. Depuis le XVIIIe siècle, l'économie politique expliquait que le travail à la source de la richesse permet la mesure de toutes les valeurs créées. C'est par le travail qu'exige la production d'une marchandise qu'on peut mesurer sa valeur et sur le marché, les marchandises peuvent s'échanger à valeur égale. Cette conception, héritée de Smith et de Ricardo, rendait compte du développement général de la production marchande. Mais avec la production en masse de produits industriels destinés à la vente, la production avait pris une toute autre dimension. Surtout, le développement de la production capitaliste au XIXe siècle aboutissait à un accroissement considérable des inégalités à l'intérieur même des nations industrielles. L'accumulation de richesses à un pôle de la société s'accompagnait de la misère et du dénuement complet à l'autre. D'un côté, les capitaux des capitalistes prenaient des proportions croissantes. De l'autre, la masse des ouvriers vivant uniquement de leur salaire devenait de plus en plus importante et de plus en plus pauvre. Car bien que le capitaliste achète et revende les marchandises à leur valeur sur le marché, Il en tire du profit. Autrement dit, il en tire plus de valeur qu'il n'en a mise dans leur fabrication. Comment cela se produit-il ? Marx s'attela à comprendre cette apparente contradiction en poussant l'analyse de la valeur des marchandises plus loin que ses prédécesseurs. Tout d'abord, la valeur des marchandises dépend de la quantité de travail dépensé à leur production. Il ne s'agit pas du travail individuel, effectivement dépensé par un homme pour fabriquer une marchandise. Sinon, un ouvrier qui travaillerait deux fois plus lentement produirait deux fois plus de valeur. Et si l'introduction d'une nouvelle machine permet de produire davantage, ceux qui utiliseraient l'ancien modèle moins performant voient la valeur de leur production fondre. Il s'agit donc de la quantité de travail nécessaire en moyenne pour produire cette marchandise dans une société donnée, autrement dit, du temps socialement nécessaire. Ensuite, poursuivait Marx, ce n'est pas le travail en tant que tel qui est acheté et vendu comme marchandise, mais la force de travail. Cette force de travail a une valeur que reflète le salaire payé par le capitaliste pour l'utiliser dans son usine. Et comme toute marchandise, sa valeur se détermine d'après le travail socialement nécessaire pour la produire, en l'occurrence, en moyen de subsistance nécessaire pour se nourrir, se loger et entretenir sa famille. C'est l'utilisation de cette force de travail qui crée plus de valeur qu'elle n'en coûte au capitaliste. Car si l'ouvrier travaille une partie de la journée pour produire ce qui correspond à son salaire, le reste de la journée, il continue de travailler sans être payé. Ce travail non payé, que Marx appelle surtravail, est la source de la plus-value, du profit du capitaliste. Alors, n'en doutons pas, lorsqu'un Sarkozy ou tout autre du même acabit parle de réhabiliter la valeur travail, il a surtout en vue la prolongation de ce surtravail, de ce travail gratuit. Pour autant, effectuer du travail non payé n'est pas le propre des conditions actuelles où les capitalistes exploitent le travail salarié. De tout temps, la classe opprimée a dû faire du travail non payé. Pendant toute la longue période où l'esclavage fut la forme dominante de l'organisation du travail, les esclaves ont été obligés de travailler beaucoup plus qu'on ne leur donnait sous forme de moyens de subsistance. Dans la société féodale, sous la domination du servage et jusqu'à l'abolition de la corvée paysanne, il en fut de même. Mais alors le travail nécessaire, lorsque le paysan travaillait pour subvenir à ses propres besoins, et le surtravail, lorsqu'il travaillait gratuitement pour le seigneur, apparaissaient bien séparés. La particularité du mode de production capitaliste est de masquer cette séparation, de rendre invisible le fait que chaque ouvrier fait en réalité un double travail. Pendant une partie de son temps de travail, il restitue le salaire que lui a payé le capitaliste. Ensuite, il continue à travailler en quelque sorte gratuitement, en produisant de la plus-value. C'est le mérite de Marx d'avoir montré que le système du salariat dépouille la classe ouvrière d'une partie des richesses qu'elle a produites au profit de la classe capitaliste. Ce fait est occulté aujourd'hui encore, tout tend à nous faire croire que le salaire rémunère bien la totalité du travail fourni, travail nécessaire et surtravail, alors qu'en réalité, il n'en paie qu'une partie. C'est ce vol à grande échelle qui permet l'accumulation du capital. Pour extorquer toujours plus de plus-value, le capitaliste a plus d'une corde à son arc. D'abord, il peut prolonger la journée de travail, allongeant ainsi la durée de travail non payée qui correspond au surtravail. Il peut aussi augmenter l'intensité du travail en obligeant à produire davantage dans le même temps ou en réduisant les pauses. Par ces deux méthodes, il s'agit d'augmenter la grandeur absolue de la plus-value. Avec le développement du machinisme, la productivité du travail augmente grâce à l'utilisation de nouveaux procédés de production plus efficaces et de machines plus performantes. Cette fois, même si le surtravail n'augmente pas en valeur absolue, même si la durée du travail est fixée, c'est le temps nécessaire à la reproduction de la force de travail qui est plus court relativement au surtravail. C'est une autre façon d'augmenter la plus-value qui se combine à la précédente. Les mécanismes de l'exploitation capitaliste, même cachés, n'en sont pas moins puissants. La concurrence et la recherche du profit maximum sont les moteurs qui poussent en permanence les capitalistes à accumuler de la plus-value. Les capitalistes deviennent, selon l'expression de Marx, des agents fanatiques de l'accumulation, car ils forcent les hommes sans trêve ni merci à produire pour produire. La concurrence ne leur permet pas de conserver leur capital sans l'accroître, et ils ne peuvent continuer de l'accroître sans une accumulation continue. Dans cette course en avant, les capitalistes n'ont pas plus de scrupules vis-à-vis de leurs concurrents que vis-à-vis de leurs propres ouvriers. C'est cette avidité qui pousse les travailleurs à se battre pour ne pas être écrasés. Précisément, le premier combat pour ne pas être écrasé fut celui pour la diminution de la journée de travail, en même temps que se développaient les luttes pour arracher de meilleurs salaires. Les ouvriers se battaient pour défendre leur peau et ils commençaient à s'organiser, comprenant que leur sort dépendait du rapport de force entre eux et les capitalistes, c'est-à-dire de la lutte des classes. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Si le mouvement ouvrier inscrivit la journée de 8 heures, dont on va parler, à son programme, il ne mit pas en avant de salaire minimum, ni même l'idée d'un salaire équitable. Car le salaire est d'abord l'expression du rapport de force entre capitalistes et ouvriers, et il se modifie en permanence sous les coups de la lutte de classe. Profit et salaire sont en raison inverse l'un de l'autre. Les capitalistes, luttant en permanence pour accroître leurs profits au détriment des salaires, il faut qu'en face, le combat soit mené pour augmenter les salaires, seul moyen pour qu'ils ne se réduisent pas. Mais en gardant à l'esprit que ce combat n'est qu'une partie du combat plus général, visant à renverser le capitalisme. En son temps déjà, Marx recommandait aux ouvriers de l'Internationale ouvrière de ne pas s'exagérer le résultat de la lutte quotidienne pour améliorer les conditions d'existence. Car c'est une lutte sans fin contre les effets et non contre les causes de l'exploitation. Dans cette perspective, il les avertissait, je le cite, « Le régime actuel, avec toutes les misères dont il accable les ouvriers, engendre en même temps les conditions matérielles et les formes sociales nécessaires pour la transformation économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur, un salaire équitable pour une journée de travail équitable, ils doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire « Abolition du salariat ». Pour pour en revenir à la lutte pour les 8 heures, on va voir maintenant que ce combat fut long puisqu'il commença au XIXe siècle et se prolongea jusqu'au début du XXe. Il toucha tous les pays entraînés dans l'industrialisation. La révolution industrielle avait entraîné un allongement démesuré de la journée de travail, d'abord en Grande-Bretagne, puis en France, car c'était le premier moyen d'accroître les bénéfices. Au début du XIXe siècle, les capitalistes, assoiffés de profit, faisaient travailler les ouvriers, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants de 6 ans, dans de véritables bagnes industrielles, avec des horaires interminables, de jour comme de nuit, jusqu'à l'épuisement. Ce sont les premières luttes de la classe ouvrière qui imposèrent des limites à la journée de travail. En Grande-Bretagne, les lois sur les fabriques se succédèrent tout au long du XIXe siècle pour en réglementer la durée. La journée de travail fut limitée à 15 heures, puis 12 heures, et enfin à 10 heures dans la loi, ce qui ne veut pas dire qu'elle l'était dans les faits, bien des patrons ne l'appliquant pas. En France, la première tentative de limiter la journée de travail à 10 heures à Paris et 11 heures en province est due à la révolution de 1848. Mais la loi fut abrogée après l'écrasement de l'insurrection de juin. La limite fixée à 12 heures ne fut pas respectée pour autant. Un patron du textile s'adressait ainsi à l'un des rares inspecteurs des fabriques. La science économique veut que l'homme, dût-il périr, suive toujours le rythme de la machine qui elle-même doit assurer la prospérité et pour cela ne jamais s'arrêter. Il parlait sans doute pas pour lui-même. Un des objectifs du mouvement ouvrier naissant fut de combattre notamment l'exploitation éhontée dont étaient victimes les enfants. Les journées exténuantes entravaient leur développement physique. Beaucoup étaient estropiés dès l'enfance. Des médecins s'en alarmaient, comme Louis-René Villermé. Dans son rapport de 1840, intitulé « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie », il dénonçait les ravages de l'exploitation sur la croissance des enfants. Même les chefs militaires s'inquiétaient de l'état physique des futurs conscrits. Une proportion importante d'ouvriers étaient déjà réformés à cause de leur taille insuffisante ou de leur handicap. En France, la loi de 1841 interdit le travail des enfants de moins de 12 ans à 8 heures. Excusez-moi. Interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et elle limita à 8 heures le travail de ceux de moins de 12 ans. Tandis qu'en Grande-Bretagne, une loi de 1842 interdisait le travail des enfants de moins de 10 ans dans les mines. Bien que la journée de 10 heures fût donc loin d'être acquise, les travailleurs les plus combatifs et les plus conscients commencèrent à revendiquer la journée de 8 heures. C'était une revendication politique, la classe ouvrière ne se battant pas seulement pour survivre, mais aussi pour arracher le droit de se reposer, de se cultiver et surtout celui de s'organiser pour préparer son émancipation sociale. En 1866, il y a presque 150 ans, la première internationale proclamait « Nous déclarons que la limitation de la journée de travail est la condition préalable sans laquelle tous les efforts en vue de l'émancipation doivent échouer. Nous proposons 8 heures pour limite légale de la journée de travail. » Dans un pamphlet fort justement nommé « Le droit à la paresse », Paul Lafargue, un dirigeant socialiste français, fustigeait, je le cite, « l'étrange folie que serait l'amour du travail dans la civilisation capitaliste. » Dénonçant au contraire le travail comme la cause de toute dégénérescence intellectuelle, de toute déformation organique, il montrait qu'en travaillant de plus en plus, les ouvriers s'appauvrissaient et enrichissaient les bourgeois improductifs. Se basant sur l'exemple de la Grande-Bretagne, où la réduction de 2 heures de la journée de travail n'avait pas empêché la production d'augmenter de près d'un tiers en 10 ans, entre autres grâce à la mécanisation et aux nouvelles énergies, il imaginait possible, dans la France de 1880, date où il a écrit son texte, possible donc de limiter à 3 heures la journée de travail. La salutaire lecture du droit à la paresse serait à infliger, et plutôt 3 fois qu'une, à tous les tenants actuels du « travailler plus ». La deuxième internationale, celle des grands partis socialistes gagnés aux idées marxistes, allait populariser largement le mot d'ordre des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Elle décida, à son congrès de fondation à Paris, en 1889, d'organiser, donc je la cite, « une grande manifestation à date fixe, de manière que dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent les pouvoirs publics en demeure de réduire légalement à 8 heures la journée de travail. Le jour du 1er mai fut choisi en hommage à la combativité de la classe ouvrière américaine qui avait lancé dans tout le pays la lutte pour les 8 heures le 1er mai 1886 et avait été durement réprimée à Chicago. Le 1er mai devenait un jour international de grève et de lutte, souvent féroce, qui a peu à voir avec notre jour férié d'aujourd'hui. En 1890, les grèves et les manifestations du 1er mai étaient illégales. Leur préparation créa un climat quasi insurrectionnel, les bourgeois les plus riches quittant Paris pour la province. Le gouvernement déploya la police et l'armée, en tout 30 000 hommes qui quadrillèrent les rues et chargèrent les manifestants. Mais la manifestation eut lieu, comme il y eut aussi des cortèges géants à Vienne, à Londres, où près d'un demi-million d'ouvriers étaient dans la rue. L'année suivante, en 1891, le 1er mai fut réprimé avec plus de violence. Dans le nord de la France, à Fourmies, la troupe, déployée par le gouvernement au service d'un patronat désireux de briser la grève des ouvriers du textile, tira dans la foule des manifestants, faisant 9 morts. Malgré les charges brutales contre les manifestations et la répression, le 1er mai s'enracinait dans la conscience ouvrière. Le combat pour les 8 heures était à l'ordre du jour jusque dans la Russie tsariste où le capitalisme se développait dans une économie profondément arriérée. En 1897, le prolétariat russe jeune et très combatif réussit à arracher par ses grèves la limitation de la journée de travail à 11h30, pendant qu'en France, elle était encore de 12h. Les 8 heures fut un des mots d'ordre de la Révolution de 1905 et seront finalement mises en œuvre par la Révolution bolchévique d'octobre 1917. En France, il fallut attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour que la loi sur les 8 heures soit promulguée le 23 avril 1919. Pourquoi ce qui était impossible jusque-là le devint-il soudain ? Dans une Europe ravagée par les dégâts dus à la guerre, où le chômage était très élevé, la reconstruction exigeait des classes laborieuses de grands sacrifices. Et pour canaliser les révoltes, la bourgeoisie consentait quelques efforts. Surtout, elle espérait ainsi éviter la révolution, alors que la vague révolutionnaire partie de la Russie en 1917 avait gagné l'Allemagne et la Hongrie. Comme le disait Pierre Monat, un syndicaliste révolutionnaire, c'est la révolution russe qui nous a fait, à nous, ce cadeau des 8 heures. Pour désamorcer le premier 1er mai d'après-guerre, qui s'annonçait massif et revendicatif, le gouvernement Clémenceau fit donc voter, à la fin du mois d'avril 1919, la loi limitant la journée de travail à 8 heures par jour, 6 jours sur 7, soit 48 heures par semaine. Pour les ouvriers, c'était une amélioration importante de leurs conditions de vie, car dans la métallurgie ou dans le textile, la journée de travail était encore de 10 à 12 heures, 6 jours sur 7, soit 60 à 72 heures par semaine. La CGT décida néanmoins de maintenir les manifestations du 1er mai pour exiger l'application rapide de la loi. Malgré l'interdiction et la répression qui fit plusieurs morts encore, il y eut 1,3 million de grévistes et 100 000 manifestants rien qu'à Paris. Peu après, la bourgeoisie, sentant le danger révolutionnaire s'éloigner, reprit l'offensive pour remettre en cause la loi des 8 heures, qualifiée de loi de circonstance. Il fallut encore plusieurs années de lutte pour qu'elle rentre partout dans les faits. Mais les patrons apprirent vite aussi à utiliser les dispositions de la loi qui les avantageaient, comme le décompte des pauses, du temps de travail et toutes les dérogations possibles. Le combat pour le repos hebdomadaire fut mené en parallèle à celui pour les 8 heures. On va voir maintenant que la remise en cause du dimanche comme jour de repos général ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle commença avec la révolution industrielle. Pendant des siècles, l'Église avait imposé que la population s'abstienne de tout travail servile le dimanche. En même temps, elle prônait l'interdiction de toutes les réjouissances, fêtes et autres mariages ce jour-là. L'assistance à la messe était une obligation. Mais même les plus longs sermons ne dépassant pas la matinée, il restait bien du temps libre que les paysans, les artisans, utilisaient à leur guise. En dimanché, c'est-à-dire ayant revêtu leurs habits du dimanche, ils se promenaient en famille, jouaient aux quilles, retrouvaient leurs amis au cabaret ou allaient danser dans les guinguettes hors des villes, au grand désespoir des curés. Au siècle des Lumières, c'est au nom du combat pour le progrès économique et contre la religion que des hommes publics comme Montesquieu ou Voltaire s'élevèrent contre les dimanches et les très nombreux jours fériés religieux qui, à leurs yeux, faisaient perdre beaucoup d'argent à l'industrie. À la fin de l'Ancien Régime, tous les secteurs d'activité étaient touchés par la prolongation du travail le dimanche. Et le nombre de fêtes religieuses tomba de 41 à 14. L'avantage était double. Plus de journées étaient consacrées à la production et le nombre de fêtes où le peuple échappait à tout contrôle était diminué. La Révolution française tenta d'imposer le calendrier décadaire, c'est-à-dire la semaine de 10 jours. Non seulement le nombre de fêtes continuait de se réduire, il n'y en avait plus que 5 par an, mais au lieu de 52 dimanches, il n'y en avait plus que 36. Inutile de dire que ce ne fut pas un succès populaire. Cependant, L'effervescence révolutionnaire avait achevé de désacraliser le dimanche. Et lorsque la restauration monarchique le rétablit comme jour chômé en 1814, il fut peu respecté aux grandes dames de l'Église. Seuls les fonctionnaires y avaient droit, tandis que de nombreux secteurs, comme les transports, bénéficiaient de dérogations et que la plupart des boutiques et des ateliers restaient ouverts. Surtout, l'industrie se développant, il fallait qu'elle tourne sans arrêt. Dans les villes et les régions industrielles, les patrons imposaient de plus en plus souvent de travailler le dimanche. Et s'ils trouvèrent une certaine résistance des ouvriers à travailler ce jour-là, ce n'était pas pour des raisons religieuses, mais parce que c'était un jour de repos indispensable qui, bien souvent, se prolongeait le lundi. C'est ce qu'on appelait fêter la Saint-Lundi. La Saint-Lundi était une vieille tradition égalitaire héritée des artisans de l'Ancien Régime. Existant aussi bien en France qu'en Angleterre ou aux Pays-Bas, cette pratique se maintenait dans le monde ouvrier et consistait à chômer volontairement le lundi. C'était une contestation à la fois de l'autorité de l'Église qui imposait toujours que seul le dimanche soit chômé, mais aussi du patron, car cela remettait directement en cause le nombre d'heures de travail qu'il imposait. Cette habitude était certes plus répandue chez les ouvriers de la petite industrie et chez les ouvriers les plus qualifiés, donc les mieux payés, mais on la retrouve partout et durant tout le XIXe siècle. Voilà ce qu'en disait le préfet de police de Paris en 1830. En général, le lundi est pour les ouvriers un jour de plaisir. Ils abandonnent leurs ateliers, se rendent hors barrière dans les établissements des marchands de vin et font des excès de boissons. Ils deviennent alors turbulents et beaucoup plus disposés à méconnaître les mesures d'ordre. Au-delà de l'ordre moral et policier, c'était aussi l'ordre social qu'on y remettait en cause, car ces journées de liberté permettaient les rassemblements et les réunions politiques impossibles les autres jours quand la journée de travail durait 12 heures et plus. Et il n'était pas rare que des grèves éclatent le lendemain d'un dimanche ou d'un lundi. Le mouvement ouvrier développait ses organisations, ce qui faisait dire à un patron que les cabarets devenaient le lundi, je le cite, « des clubs ouverts aux déclamations des idées socialistes et des doctrines de l'Internationale ». La presse réactionnaire opposait le mauvais ouvrier qui fête le lundi, fréquente le cabaret, fait partie des sociétés secrètes et lit un journal socialiste, à l'ouvrier respectueux du dimanche, du patron, vivant en famille et épargnant. Après l'écrasement dans le sang de la Commune de Paris, la bourgeoisie voulut déraciner cette tradition du Saint-Lundi, trop liée à la contestation et à la révolte. Certains filateurs accordèrent une prime de 10% à ceux qui travaillaient lundi, mais la plupart des industriels préféraient imposer des amendes ou renvoyer systématiquement les ouvriers absents le lundi, comme dans les mines d'Anzin, où les responsables empêchaient les chômeurs du lundi de descendre dans les fosses le reste de la semaine. Lorsqu'en 1880, les républicains anticléricaux au pouvoir abrogèrent la loi de 1814 interdisant de travailler le dimanche, elle était dans les faits quasiment tombée en désuétude. Cela faisait bien les affaires de la bourgeoisie capitaliste qui n'hésitait pas à enrôler 7 jours sur 7 la classe ouvrière dans ses usines. À côté de l'industrie manufacturière, de nouvelles branches industrielles se développaient, comme l'automobile ou la chimie. Les grands ateliers de ces nouvelles usines nécessitait une main-d'œuvre ouvrière nombreuse et disciplinée, ayant perdu l'habitude de s'absenter à sa guise. Mais la bourgeoisie ne se contentait pas d'encadrer les activités liées à la production. Elle voulait aussi imposer sa façon de vivre à l'extérieur des ateliers. Face aux revendications ouvrières pour le repos hebdomadaire, auxquelles s'ajoutait la campagne d'un courant hygiéniste qui s'alarmait de l'épuisement des travailleurs à cause de ces semaines sans fin, elle préféra réintroduire le repos du dimanche, car le lundi avait un goût de soufre, tandis que le dimanche avait l'avantage d'être centré sur la famille, à défaut de la religion. Au début du XXe siècle, si la majorité des ouvriers disposaient d'un jour de repos le dimanche, il n'en allait pas de même dans les nombreux commerces alimentaires, les salons de coiffure, les grands magasins qui s'implantaient dans la plupart des villes après Paris. Pour les employés et les commis de magasins, les journées pouvaient encore atteindre 16 heures toute la semaine, dimanche compris. Pour récupérer un peu, ils devaient attendre la morte saison où ils ne touchaient bien entendu aucun salaire. Leur syndicat dénonçait le sort de l'employé en col blanc. Je cite, « Souvent, sous sa redingote, il cache une misère noire. » Ces conditions de vie l'usaient précocement. En 1900, 45% des employés de commerce avaient une espérance de vie inférieure à 40 ans. Les patrons du commerce, qui imposaient l'ouverture du dimanche, prétextaient que c'était le seul jour permettant aux habitants de la campagne qui venaient à la ville ou aux ouvriers de faire leurs courses. Il faut croire que l'argument a traversé le siècle, mais conclure au contraire que c'est le temps de travail de tous qu'il faut diminuer, ça n'a pas l'air de les effleurer. Les employés de commerce et les garçons coiffeurs allaient se battre avec rage, trouvant à leur côté le mouvement socialiste et syndical. Des mairies socialistes interdirent les étalages du dimanche, accélérant la fermeture des magasins. Surtout, la CGT, née en 1895, entama une campagne pour le repos du dimanche avec des manifestations de plus en plus nombreuses. Des employés exaspérés menèrent aussi des actions violentes, badigeonnant les devantures des salons de coiffure qui ouvraient le dimanche, faisant exploser les vitrines des magasins sous les jets de pierre. Des garçons coiffeurs firent courir le bruit qu'ils écorcheraient ceux qui viendraient se faire raser le dimanche. En 1902, les ouvriers cordonniers de Paris affichèrent, non sans humour, l'avis suivant. Les ouvriers cordonniers de Paris préviennent la clientèle de ne plus porter à réparer leurs chaussures le dimanche. Au cas contraire, elles seront coupées ou brûlées. Finalement, la loi sur le repos dominical fut votée en 1906 dans un contexte de mobilisation ouvrière intense pour la journée de 8 heures. Mais elle excluait les cheminots, les ouvriers agricoles et les domestiques qui étaient nombreux dans les maisons bourgeoises. De plus, les préfets pouvaient octroyer de nombreuses dérogations et les patrons qui résistaient à la loi en ouvrant le dimanche n'étaient pas sanctionnés. En 1913, seuls 30% des magasins concédaient le repos du dimanche à leurs employés. Le repos du dimanche ne fut finalement vraiment appliqué qu'après la Première Guerre mondiale, avec la loi sur la journée de 8 heures et la généralisation de ce qu'on appelait la semaine anglaise, qui comprenait le samedi après-midi de libre, sur le modèle donc de ce que les ouvriers anglais avaient obtenu un demi-siècle auparavant. C'est la réduction globale du temps de travail qui permit aux travailleurs de déserter les magasins le dimanche et de faire bien sûr leurs courses en semaine ou le samedi après-midi. Actuellement, Si le repos dominical continue d'être la règle en France, le nombre de salariés travaillant le dimanche ne cesse d'augmenter depuis la fin des années 1980. Plus de 30% des salariés, dont une majorité de femmes, travaillent le dimanche de façon habituelle ou occasionnelle. Ils n'étaient que 20% il y a 20 ans. Et de la même manière qu'au siècle dernier, les grands magasins s'opposaient à toute fermeture le dimanche, aujourd'hui, ce sont les mêmes grandes surfaces qui poussent à l'ouverture. Elles peuvent dire merci à la loi Macron, qui vient de faire passer de 5 à 12 le nombre d'ouvertures possibles le dimanche. La semaine de 40 heures, elle, fut imposée en 1936. Et comme la journée de 8 heures et le repos dominical, elle fut obtenue, arrachée par la lutte des classes. Tous ceux qui prétendent aujourd'hui que les 40 heures auraient été un cadeau du gouvernement de Front Populaire refont l'histoire, car c'est bien la grève générale de mai-juin 36, avec l'occupation des usines, qui imposa au patronat et au gouvernement le vote de cette loi. Il faut rappeler à ce propos que les 40 heures étaient une revendication ouvrière ancienne, portée notamment par la CGT, mais elle ne faisait pas partie du programme électoral du Front populaire. À peine accordée, la semaine de 40 heures allait d'ailleurs être remise en cause à la faveur de la marche à la guerre. En 1938, le chef du gouvernement, le radical Daladier, justifiait l'abandon de la semaine de 40 heures par la nécessité, je le cite, de remettre la France au travail. On croirait entendre certaines personnes d'aujourd'hui. Mais à l'époque, le pays se préparait à la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, ce fut au nom de la reconstruction qu'on conserva la semaine de 48 heures, voire plus. Et pendant les prétendues 30 glorieuses qui suivirent et qui ne furent glorieuses que pour les profits, on maintint les semaines interminables, au nom cette fois du manque de main-d'œuvre. Finalement, c'est la grève générale de mai 68 qui fait respecter la loi de 1936 sur les 40 heures dans bien des entreprises, et encore, pas dans toutes. La gauche au pouvoir accorda en 1982 les 39 heures, mais cette petite diminution fut compensée par une plus grande flexibilité des horaires négociables au niveau des entreprises. Dans la métallurgie, par exemple, elle permit d'imposer des horaires allant du lundi au dimanche, de jour comme de nuit, tandis qu'au même moment, les grands plans de licenciement, notamment dans l'automobile, commençaient. Les lois sur les 35 heures de Martine Aubry, ministre du Travail de Jospin, englobèrent les lois précédentes sur la réduction du temps de travail, comme la loi de Robien qui avait été votée en 1996 sous le gouvernement Juppé. Votée par un gouvernement de gauche en 1898 et 2000, les lois sur les 35 heures étaient censées favoriser de nouvelles embauches. Mais derrière ce qui semblait être une avancée sociale, il y avait surtout un cadeau que le patronat réclamait depuis longtemps, l'annualisation du temps de travail, l'horaire de 35 heures n'étant pas un maximum indépassable, mais le seuil au-delà duquel se déclenchent les heures supplémentaires. Grâce à l'annualisation, cet horaire de 35 heures est calculé sur l'année, ce qui permet des semaines beaucoup plus longues, jusqu'à 48 heures sur une semaine ou 44 sur 12 semaines consécutives. Cette possibilité de flexibiliser les horaires est tout au bénéfice du patron qui peut faire face à un regain d'activité sans avoir à embaucher, tandis qu'elle impose aux salariés des amplitudes de travail importantes au détriment de la santé ou de la vie personnelle. Bien sûr, bon nombre de salariés disposent de jours de RTT bienvenus, mais ils ne peuvent pas toujours les prendre quand ils le souhaitent. Sans parler du personnel des hôpitaux qui, faute de remplaçants, ne peut pas prendre ses RTT depuis des années. Bien souvent, les entreprises, d'ailleurs, n'ont pas embauché malgré cette réduction, mais elles ont contraint les salariés à compenser la baisse horaire par une intensification accrue du travail, autrement dit, à faire en 35 heures ce qu'ils faisaient auparavant en 39. Les patrons, eux, ont été doublement gagnants. D'une part, ils ont eu moins d'heures supplémentaires à payer grâce à l'annualisation du temps de travail, mais ils ont rogné sur tout, décomptant les temps de pause ou d'habillage du temps de travail effectif, gelant les salaires pour plusieurs années. D'autre part, ils ont touché des aides financières substantielles et bénéficié d'exonérations, ce qui a contribué à creuser le déficit de l'État. Ainsi, Martine Aubry pouvait s'en féliciter, les 35 heures n'ont eu aucun impact sur les coûts salariaux grâce aux allègements de charges et aux gains de productivité. Alors l'horaire de travail n'est qu'un des éléments de l'exploitation de la force de travail. Avec le développement de la société, les capitalistes disposent de bien d'autres moyens pour extorquer de la plus-value, notamment augmenter la productivité du travail, faire produire plus en moins de temps. Au début du XXe siècle, alors même que les luttes ouvrières arrachaient la journée de 8 heures et un jour de repos hebdomadaire, l'exploitation capitaliste allait devenir plus intense, les cadences infernales prenant le relais des journées à rallonge. Dans les usines, se mit en place un système de discipline du travail qu'on connaît sous le nom de taylorisme et dans lequel chaque geste est minuté à la seconde près. Bien sûr, contrôler étroitement le temps de travail est aussi ancien que le capitalisme. Du temps mesuré à la tâche, comme celui consacré au labourage d'une parcelle ou à la fabrication d'un outil à la main, on était passé à la mesure du temps de travail à l'heure avec le développement de la production manufacturière, tandis que la réglementation commençait d'imposer une limitation à la durée des horaires pratiqués dans les ateliers, certains patrons n'hésitaient pas à déplacer les aiguilles des horloges de façon à ce qu'elles marquent l'entrée du personnel plus tôt et la sortie plus tard. Un ouvrier d'une filature dénonçait amèrement. Mis à part le patron et son fils, personne n'avait de montre et nous ne savions pas quelle heure il était. Il y avait bien un homme qui avait une montre. Elle lui fut confisquée parce qu'il avait dit l'heure à ses collègues. Avec Taylor, ce n'était plus seulement l'horloge, mais le chronomètre qui entrait dans les usines. En 1911, cet ingénieur américain exposa un nouveau système d'organisation du travail dont le but était d'améliorer la rapidité d'exécution des ouvriers. Après des années de travail au sein de la scierie où il avait gravi les échelons, il avait eu l'idée de décomposer les phases successives d'un procédé de production pour rechercher les gestes les plus efficaces. Après avoir séparé les tâches à effectuer, il fallait les chronométrer car pour lui le geste le plus efficace, c'était celui qui prenait le moins de temps. Les ouvriers devaient se limiter à l'exécution sans fin de ces gestes rationalisés, tandis qu'au-dessus d'eux et mieux payés, les bureaux des méthodes s'appliquait à améliorer toujours plus la performance et la rapidité du travail productif lui-même. À un ouvrier qui s'insurgeait d'être transformé en un simple rouage de la machine, Taylor aurait répondu « On ne te demande pas de penser, il y a des gens payés pour cela, alors mets-toi au travail ». Taylor ne s'en cachait pas, il s'agissait avant tout de lutter contre ce qu'il appelait la flânerie ouvrière. Il écrivait « La majeure partie de la flânerie systématique est pratiquée par des ouvriers avec l'intention délibérée de tenir leur patron dans l'ignorance de la vitesse à laquelle on peut faire un travail. Aucun doute, avec un tel mépris social, il était bien davantage au service des patrons que de la science dont ils se réclamaient. L'application de ces méthodes provoqua des conflits sociaux. Le syndicat des ouvriers américains organisait la résistance, dénonçant la brutale intensification du travail. Taylor dut défendre ses méthodes devant une commission d'enquête gouvernementale, mais tout scrupule fut balayé devant les gains de productivité qu'elles apportaient. Avec des gains de 360%, il y avait de quoi effacer tous les scrupules. Bien sûr, les salaires augmentaient de 60%, soit 6 fois moins. Dans la même période, une autre méthode de travail s'imposait dans les usines américaines, le montage à la chaîne. Le constructeur automobile Henry Ford disait en avoir eu l'idée en visitant, adolescent, les abattoirs de Chicago. Cette innovation, la chaîne de montage, lui permit de réduire considérablement le temps de construction du modèle de voiture appelé Ford T, qui passa de 6 heures à 1h30. Pour une voiture, la productivité était multipliée par 4, tandis que les salaires ne faisaient que doubler. Mais les conditions de travail étaient très dures. L'ouvrier rivé à un poste assemblait des pièces standardisées qui défilaient devant lui. Malgré les 5 dollars journaliers promis par Ford, qui était le double aussi du salaire moyen, les ouvriers fuyaient l'entreprise. Et en 1914, Ford reconnaissait lui-même que pour garder un effectif permanent de 14 000 ouvriers, il devait en embaucher 53 000 par an. Ces méthodes de rationalisation et de standardisation se répandirent au-delà de l'Amérique. En France, Renault fut la première usine à expérimenter cette organisation du travail. À l'époque, les journées de travail y étaient fastidieuses, les ouvriers travaillaient encore 12 heures par jour. En 1913, Renault connut sa première grève importante à la suite d'une baisse des primes qui s'ajoutait à la rationalisation du travail dans les ateliers. Accusateur, l'anarcho-syndicaliste Émile Pouget dénonçait en 1914 le système de Taylor comme, je cite, « l'organisation du surmenage ». À sa manière drôle et pas moins contestataire, c'est ce que montrait aussi Charlie Chaplin dans son film « Les temps modernes », où un ouvrier surmené et plutôt déluré commence par dérégler le bon fonctionnement d'une chaîne de montage avant de finir par disparaître entièrement dans la machine.